Bonjour, à l'occasion du Vendredi Saint, nous vous proposons une émission spéciale. À la fin de cette émission, vous entendrez la dernière chanson de la semaine de notre concours. Mais avant cela, rencontre avec l'écrivaine tchèque Lenka Horniáková Sivad, qui vient de publier son deuxième roman en français, Une verrière sous le ciel. Pour Radio Prague, elle a évoqué la genèse de ce deuxième ouvrage, les différents personnages, son rapport à la langue tchèque et à la langue française, mais aussi l'importance du conte dans la culture tchèque. Lenka Horniáková Sivad, bonjour.
Bonjour.
C'est pas la première fois que nous vous invitons sur Radio Prague, mais pour ceux qui l'auraient oublié, rappelons que vous êtes artiste peintre et aussi écrivaine. Vous êtes originaire de Prostějov en Moravie, mais vous vivez avec votre famille dans le Vaucluse, en France. Lors de notre dernière rencontre, c'était pour la sortie de votre tout premier roman, Giboulée de soleil, aux éditions Alma, qui a été ensuite distingué par le prix Renaudot des lycéens, c'est pas rien. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à nouveau à l'occasion de la sortie de votre deuxième opus qui s'appelle Une verrière sous le ciel, sorti chez le même éditeur. En quelques mots, dites-nous quelle histoire vous avez choisi de nous raconter pour ce second roman.
Bonjour. Alors, le deuxième roman, c'était une histoire qui était écrite et racontée avec une certaine urgence dans l'intérieur. Et je me suis aperçue que je suis partie sur un terrain de conte. Et je pense que c'était de nouveau la langue française, qui était la langue d'écriture de ce roman. Mais ma partie tchèque et ma patrie tchèque, je crois, s'est révélée justement dans le format qui s'approche du conte, de quelque chose qu'on connaît justement très bien dans mon pays d'origine.
Et que les Français connaissent peut-être un peu moins bien pour le coup.
Oui, où il est moins répandu, on va dire, où il appartient vraiment à l'espace de l'enfance. Alors qu'en République tchèque, c'est quelque chose avec quoi on manipule, même étant adulte, et on arrive très bien vivre dans une réalité avec les personnages qui ne le sont pas, mais ça ne nous dérange pas trop.
Pour votre premier roman, vous aviez situé donc le récit entièrement en Tchécoslovaquie. Hein, c'était des années 50 à la Révolution de velours. Cette fois-ci, votre héroïne, donc Anna, elle est certes tchécoslovaque, mais tout le récit se déroule en France, malgré quelques flashbacks quand même vers son pays d'origine. La succession de ces deux romans, c'est presque un parallèle en fait de votre vie, hein, puisque la vie de vos héroïnes en Tchécoslovaquie dans vos premiers romans et la venue d'Anna en France.
Ça peut être probablement la seule chose qui peut être, on va dire, autobiographique, parce que ni le premier roman n'est pas autobiographique, malgré le fait que je suis effectivement originaire de Moravie. Et c'est vrai qu'à partir de l'âge de 21, 22 ans, j'ai vécu en France, mais mon arrivée en France ne ressemble en rien à l'histoire de Anna. Mais c'est vrai que ces interrogations, ces questionnements qu'elle rencontre, enfin, qui l'anime, qui l'habite, oui. Celles-ci, je les ai traversées, mais comme j'ai dit, pas du tout dans les mêmes conditions et avec le même entourage. Donc, le questionnement peut-être, mais l'histoire n'est pas, ce n'est pas mon histoire, c'est vraiment quelque chose d'inventé. Et c'est vrai que le premier roman, autant il était situé à la campagne, presque dans un huis clos d'un village isolé, là, c'est un roman beaucoup plus citadin. On est entre Prague de souvenirs et Paris fantasmé, Paris rêvé. Et peut-être aussi petit à petit Paris réel
À Paris vécu,
et à Paris
oui.
vécu. Donc il y a ce cheminement, c'est un roman qui s'approche, oui, d'un conte initiatique ou d'un roman philosophique peut-être, parce que c'est un chemin d'un lieu vers l'autre, mais aussi d'une personne vers quelque chose qu'on devient, enfin, une renaissance ou naissance à soi.
Alors c'est presque à proprement parler ça, puisque ça se joue le début autour en fait de son anniversaire, hein, puisque cette
Oui.
jeune fille Anna arrive à 17 ans en France et reste à l'âge de 18 ans en France. En
Exactement.
fait, ça se déroule évidemment dans un mouchoir de poche, c'est-à-dire qu'elle est envoyée en colonie de vacances en France par le Parti communiste tchécoslovaque pour diverses raisons qu'on ne va peut-être pas détailler tout de suite là. Et en fait, au moment de repartir en Tchécoslovaquie, de prendre le train à la gare de l'Est, elle décide de rester parce que c'est son anniversaire.
Exactement. C'est le jour, la date. Arme cette jeune fille et lui donne cette possibilité de dire non. Et c'est probablement son premier grand non massif de sa vie, quelque chose où c'est comme le premier pas vers la liberté, bon, un concept qui lui est presque inconnu et qu'elle découvre effectivement avec chaque nouveau pas qu'elle fait donc à Paris. Oui, c'est une. Oui, évidemment, c'est le romancier a ce pouvoir de concentrer les éléments et les forces dans un unique moment, et c'est son nom à elle.
C'est un pouvoir magique, hein, puisqu'on parlait du
Exactement.
conte. Alors, comme vous disiez, hein, c'est pas votre histoire à proprement parler. Elle a aussi une histoire compliquée, hein, cette Anna, qui a un seul N d'ailleurs à son prénom, puisque son père est responsable de la censure en Tchécoslovaquie, et sa mère, elle, cache de la littérature interdite derrière des couvertures de livres russes. Elle part avec un sacré bagage quand même psychologique sur les épaules, hein.
Oui, c'est pas quelque chose de facile, malgré une enfance en définitive plutôt heureuse et calme. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est ce qui se cache justement sous les apparences. Sous une. Enfin, des fois, il peut y avoir des tempêtes, les courants extrêmement forts, alors que la surface de la mer est d'une platitude formidable. Donc, c'est quelque chose de cet ordre-là. Elle découvre petit à petit aussi les profondeurs de ces courants et de cette tempête qu'elle vivait, alors qu'elle en avait une toute autre vision tant qu'elle était plongée dedans. Et c'est aussi très intéressant, effectivement, comment on revisite soi-disant vérité ou soi-disant réalité avec une autre distance, avec un regard qui change. Et c'est ce qui lui arrive, en fait. Elle redécouvre non seulement elle-même, mais aussi ses proches et ce qu'elle a vécu jusque-là. Et ça lui donne probablement un doute, mais aussi une force pour affronter ce qui va suivre.
Et alors, en cela, elle est aussi aidée. Et puis, en fait, ce roman initiatique, le fait qu'elle grandisse aussi, elle est aidée en cela avec des personnages, hein, qui l'entourent. Une espèce de cour des miracles, on a l'impression, qui se concentre dans un bistrot où elle est accueillie un petit peu comme cette jeune fille errante, ramenée là-bas par un personnage encore plus étrange qui s'appelle Grovka. Donc, il y a des personnages improbables qui se retrouvent là-bas. Il y a ces deux petits vieux, le juif et l'arabe, qui sont tellement attachants. Les deux Yacoub, en fait, il y a Jacques et Yacoub. Il y a Bernard, le communiste, il y a un russe, et puis il y a Albert, le peintre. Elle est entourée de personnages pareils, hein, qui sont très presque mythiques, entre guillemets, autour d'elle.
Oui, chaque personnage est effectivement presque archétypal de quelque chose, enfin un trait de caractère. Ils sont tous bienveillants et Anna est aussi pour eux un espèce de catalyseur parce qu'ils vivent dans une habitude, on va dire, de nouveau, un calme apparent depuis X années, disons 15 ans, 5 ans, enfin, un temps assez long. Et tout d'un coup, cette jeune femme arrive et tout est bousculé, en fait. Tout prend une autre dimension parce qu'elle arrive et chamboule ses habitudes qui préservaient tout le monde, quelque part, dans une représentation de soi. J'aime beaucoup les cafés, évidemment, les terrasses de café, etc. C'est un bistrot, c'est un bureau formidable pour moi et le monde m'inspire là. Et je trouve que c'est un monde comme un théâtre, en fait. Et il m'a plu de prendre ces personnages, de les faire traverser sous la lumière de ce café, ils nous montrent ce qu'ils veulent, ce qu'ils espèrent d'être eux, ce qu'ils veulent qu'on voit d'eux, mais en fait la réalité est toujours un peu ailleurs. Et on arrive à jouer un rôle pendant un quart d'heure, même pendant 15 ans, mais quand il y a quelqu'un qui arrive avec une fraîcheur ou une autre histoire qu'on n'imaginait pas, ça peut surprendre. Et donc en fait c'est vrai que tous les personnages sont tout d'un coup un peu mis à côté d'eux-mêmes, par le regard d'abord le silence et ensuite le regard de cette jeune fille qui et donc ils se révèlent aussi à eux-mêmes et aux autres.
Alors justement, après, Anna va servir de modèle, hein, pour Albert, ce peintre. Dans ce roman, vous touchez aussi à quelque chose de très intime que vous n'aviez pas abordé dans votre premier roman, la peinture, puisque vous êtes vous-même artiste. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus justement sur le fait d'écrire sur cette deuxième passion intime?
Je pense que la peinture était presque le prétexte plus pour explorer le moment de la création. Et parce que je crois que c'est un domaine où la liberté est nécessaire, s'exerce, s'éprouve. Il me semblait que ça allait de soi et de pair avec cette découverte de liberté que Anna vivait. Et c'est vrai qu'elle. Et moi, ça m'intéressait de voir son regard du modèle, comment le modèle vit cette création sous sa propre peau, avec son silence et cette immobilité. Elle est en fait en première loge, elle observe ce moment insaisissable et complètement difficile à comprendre et décrire ce qui est la création. Enfin, elle voit la souffrance du peintre, etc. Elle interroge, elle l'accule jusqu'à ce qu'il explose parfois parce qu'il n'a pas les mots d'ailleurs, pour dire, il a son ami, son proche, son esthète, Eugène, qui devrait, qu'il espère d'avoir ces mots qui manquent à l'artiste, parce que lui, il est dans le fer. Donc oui, ce triangle m'intéressait beaucoup. Et je ne prétends pas d'apporter les réponses, mais en tout cas, d'aborder ce sujet, oui, ça, c'était important. Oui.
Je rappelle que vous écrivez vos romans en français, hein, c'est quand même un sacré défi hein, pour quelqu'un qui n'est pas natif à l'origine de la langue. Cette thématique justement de la langue et des langues est quelque chose qui traverse ce roman, parce que déjà Anna, elle reste mutique hein, pendant un sacré bout de temps, et d'ailleurs tous croient qu'elle ne parle pas français alors qu'elle le parle.
C'était une attitude qui m'intéressait quand on arrive quelque part frais et on ne comprend pas la règle du jeu, on n'a pas les codes. Alors c'est vrai qu'elle se défend dans ce silence parce que tout d'un coup elle devient comme une éponge, elle absorbe ce qui se passe autour d'elle. Et d'ailleurs son regard est parfois très incisif et très, très juste parce que de temps en temps on peut avoir justement beaucoup plus de force dans le regard quand on n'a pas forcément tout le savoir autour qui peut polluer ou qui peut un peu modifier cette fraîcheur qu'elle possède. Et c'était aussi peut-être, équilibrer les forces quelque part. Ce silence pour elle n'est pas le moi et le plus. Et elle s'aperçoit qu'il est peut-être considéré comme le moi par les autres. Parce que c'est vrai, à un moment, elle le dit, je ne parle pas, mais ça ne veut pas dire que je ne pense pas. Et donc voilà, il y a aussi cette mise un peu... devant ces clichés, à partir du moment où elle dit la première phrase, et effectivement, elle l'a dit en français, et ce n'est pas n'importe quelle phrase non plus.
Et justement, la langue, vous l'évoquez aussi en rapport avec la gestion des émotions, puisqu'à un moment donné, vous dites, une autre langue m'aide à tenir les larmes à distance, loin dans le flou. Comme si, en fait, on changeait, enfin, selon la langue, on avait une gestion différente, évidemment, des émotions et même de la perception de la réalité.
Ah ça, je suis persuadée, oui. C'est vrai que quand on s'exprime dans sa langue maternelle, on amène tout le bagage justement de la petite enfance, de la tendresse, du toucher. Je reste assez persuadée que la langue maternelle est presque une langue du toucher, quelque chose de physique, plus qu'une langue en tant que telle, enfin des concepts ou intellectuels. C'est une langue d'émotion. Et l'autre langue, enfin celle qu'on apprend comme la voisine ou comme une autre pour s'exprimer, bah c'est un outil, mais dans le noble sens du terme. C'est pas quelque chose de juste utilitaire, mais c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas pour Anna, sert à approcher, à aborder l'autre presque en sécurité, où elle ne se met pas en danger d'être submergée par les émotions, par quelque chose qu'elle n'arrive pas à contrôler. Parce que c'est vrai, que comment contrôler une émotion, comment contrôler... Et ça lui permet de se construire aussi. C'est comme un matériau dans lequel on se construit, dans lequel on se raconte, on se dit, on se montre et on se met face au monde.
J'imagine que c'est quelque chose, évidemment, qui vous est très proche, hein, puisque vous-même êtes bilingue et écrivez en français.
C'était en tout cas quelque chose de très présent lors de l'écriture du premier roman. C'est vraiment là où j'ai travaillé cette relation à la langue française, alors que je l'ai parlé depuis plus de 20 ans. Mais la langue française, pour moi, c'est une langue de l'âge adulte. À différence de Anna, de nouveau, je n'ai pas appris jeune. Je l'ai apprise vraiment une fois arrivée en France. Et donc, c'est lors de l'écriture que j'ai pu la pénétrer plus, parce que là, évidemment, on va chercher au plus proche pour être le plus précis possible dans ce qu'on veut exprimer. Et c'est là où on commence à réfléchir véritablement quelle relation on a avec cette langue. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit de nous? Et qu'est-ce que nous disons d'elle? Et comment? Donc c'était évidemment le sujet qui parcourt ce roman, parce que c'était cette urgence tout d'un coup qui était ici. Ouais.
Votre dernier roman a été traduit en tchèque, vous l'avez traduit aussi en tchèque, hein, le tout premier, Giboulée de soleil. Est-ce que celui-ci aura aussi une traduction en tchèque?
J'espère bien, oui. Là vraiment je l'espère, parce que justement dans cette interrogation sur les deux langues, il m'intéresse profondément de voir comment cette interrogation va être traduite, dite justement en tchèque, dans la langue maternelle, parce que c'est une... Parce que là, l'héroïne, elle est clairement à la frontière. Et vraiment, elle oscille entre les deux, aussi bien dans sa pensée que dans comment elle s'exprime. Même si elle s'exprime de temps en temps que dans sa tête, dans sa langue maternelle. Mais quand même, il y a ces passages-là. Et cette double vie linguistique, ces deux territoires qui se croisent et qui se interpénètrent, ça m'intéresse de voir comment ce sera exprimé dans la langue tchèque. Ouais.
C'est vous qui vous en chargerez cette fois-ci aussi ou pas ?
J'ai envie de dire que je l'espère.
On va terminer sur cette note d'espoir. Merci beaucoup, Lenka Roniakova-Sivada.